Artisan de paix. Artisan de paix, une réflexion autour de la non-violence, guidée par Yves Ardourel.
Le 15 décembre, au Collège des Bernardins à Paris, on a célébré le centenaire de René Girard, incontournable penseur du sacré et de la violence. Il interroge la façon dont les hommes se racontent leur propre violence. Historien, philosophe et anthropologue, René Girard est l'auteur de l'ouvrage « La violence et le sacré ». En se basant sur les notions de désir mimétique et de bouc émissaire, il explique que la violence est inhérente à la nature humaine et que le sacré est une réponse à cette violence. René Girard pourfend l'idée de Jean-Jacques Rousseau selon laquelle l'homme serait bon par nature. Oui, pourquoi nos sociétés arrive-t-elle si mal à s'extraire de la violence? Un autre philosophe, Frédéric Gros, conclut son livre « Pourquoi la guerre ?» en disant « C'est toute notre culture de la haine et de la revanche mauvaise, de la peur et de l'arrogance méchante qui nous retient au bord de la paix. La paix étant toujours le triomphe de la joie contre les passions tristes. » Redécouvrons les travaux de René Girard, disparu en 2015. Bonjour José Resson.
Bonsoir.
On se retrouve pour la deuxième semaine pour parler de violence et de paix. On a parlé de la violence entre les... dans la guerre, les conflits, mais la violence, c'est aussi la violence que l'on subit, la violence intime, cette violence douloureuse. Et je crois que vous avez une expérience à partager et des propositions, puisqu'un livre, vous avez écrit un livre sur ces questions-là, ce livre sur justement la sortir de la honte par rapport aux violences que l'on a pu subir.
Oui, alors ma jeunesse, ça a été difficile. Alors, ça commence par mes parents. J'ai appris plus tard, bien sûr, pas dans ma jeunesse, mais j'ai appris plus tard que ma mère a subi des tentatives d'inceste de son père. Que mon père a été agressé, bien qu'il n'ait jamais pu le dire. Mais j'en ai tous les signes maintenant, je connais comment on repère les choses. Mon père a été violenté à son collège, je ne sais pas par qui, probablement par d'autres élèves. Et voilà, donc pour moi ça a été des... Mes parents n'étaient pas spécialement faciles, je pourrais dire. Ma mère m'a battu, je peux dire, jusqu'à l'âge de 15 ans. Alors j'étais une hérétique, j'étais un coprésique. Donc j'étais déjà dans un certain trouble psychique, en particulier en conflit avec ma mère, c'est clair. Voilà, et puis vers 15 ans, les choses se sont... 15-16 ans, j'ai eu mes premiers amis. J'ai pas eu d'amis jusque-là. Mes premiers amis qui m'ont aidé à sortir simplement par leur amitié. Sortir de cette prison. Et puis, entre-temps, vers 12 ans, j'ai été agressé par un prêtre. Oui, vers 12 ans. Qui est décédé depuis, d'ailleurs. Mais ça m'a marqué profondément. Et en particulier, ça m'a perturbé dans mon travail, puisque j'étais professeur, je n'avais pas d'autorité à cause de l'estime de moi qui était blessée. Voilà. Et alors, vers 12 ans, j'ai des souvenirs très précis d'un matin d'hiver où j'allais au collège. J'allais au Caousou. Et en allant, j'avais des pensées... Je pensais que les gens m'épiaient derrière les fenêtres, qu'ils avaient une double vie, que, enfin voilà, tout un tas de trucs. J'ai appris plus tard que c'était comme ça qu'on tombait dans la paranoïa. Mais, un beau matin, j'ai entendu une voix sur le chemin qui m'a dit « Si tu continues ces pensées, tu vas devenir fou. » Je ne savais pas qui est-ce qui me parlait. Une voix intérieure. Je ne savais pas d'où elle me venait. J'ai découvert bien plus tard. Mais j'ai compris que c'était juste et qu'il fallait que je me méfie de mon imagination. Donc j'ai arrêté ces imaginations dangereuses. Et c'est bien plus tard, des années plus tard, que j'ai réalisé que ça s'était passé à l'endroit où je croisais la rue où étaient les Pères Blancs, qui étaient tout près, à 50 mètres de là, et à l'heure où ils disaient la messe. J'ai compris que c'était le Seigneur, mon ange gardien, qui m'avait sauvé de la paranoïa dans laquelle j'étais en train de tomber, voilà. Mais ça s'est passé bien plus tard, quand j'ai connu un peu le Seigneur par le groupe de prière. Voilà, mais ça a été pour moi une étape importante.
Donc la violence familiale subie,
oui.
ça vous a marqué fortement.
Oui.
Et à partir de cette expérience, de cette douleur, une réflexion et une façon et un appel à aider, à accompagner les autres, d'autres qui vivent ces souffrances, ces violences,
oui.
Ces difficultés.
Oui.
C'est l'objet de ce livre.
Oui.
Sortir de la honte.
Oui. Alors, il faut que je vous raconte autre chose. Une autre étape importante, ça a été au cours d'une retraite que j'ai faite à Vezac, dans une communauté qui accueille des retraitants. Et au cours d'une retraite, un vendredi saint. Alors moi, j'y allais. À ce moment-là, j'accompagnais des retraitants. Et j'étais déjà diacre. J'accompagnais, j'écoutais des retraitants pour les aider à rencontrer le Seigneur. Voilà. Et puis un vendredi saint, à 3h de l'après-midi, c'était un moment de pause dans la journée. J'ai pris un petit chemin qui était un peu boueux. Alors je dis, mais Seigneur, il y a de la boue sur ce chemin. J'ai senti que le Seigneur m'attirait sur ce chemin. Je ne sais pas pourquoi. Et je lui dis, bon, il y a un peu de boue là. Et puis, je sentais qu'il me répondait. Quand je suis monté à la croix, le chemin n'était pas très propre. Bon. Alors j'ai continué. Et puis, à un moment donné, le chemin, au lieu de descendre, s'est mis à monter. Et j'ai senti que une voix qui me parlait de façon plus claire et qui me disait « Je veux te libérer de la honte. » Je ne savais pas que j'étais dans la honte. Mais à ce moment-là, j'ai senti un poids qui tombait de mes épaules que je portais depuis toujours. Je me suis senti léger tout d'un coup.
Un long chemin intérieur,
oui.
De réflexion, et qui aboutit à...
Qui aboutit à ce jour-là.
Voilà.
Oui. Alors, ensuite, j'ai continué. J'ai continué différentes étapes, je ne vais pas tout raconter, mais petit à petit, le Seigneur m'a libéré de la honte.
Oui. Et cette libération vous a permis d'aider, et d'aider les autres à travers, dans des groupes, dans des communautés, dans des rencontres.
Oui. Oui, en particulier dans une association, ce n'est pas encore tout à fait une association, mais enfin on essaie de s'organiser avec d'autres victimes d'abus sexuels dans l'église. Mmh. Voilà, ça s'appellera l'auberge du Samaritain.
D'accord. Donc là, José Resson, vous avez raconté combien cette confrontation avec la violence personnelle, intime,
oui.
Cette réflexion, ce long cheminement pour,
oui.
pour sortir de la honte, mais ça devient un appui, une richesse pour partager ça et accompagner et aider d'autres personnes.
Oui, tout à fait.
Ouais. Bon, mais merci.
Plusieurs personnes que j'ai rencontrées, quand je leur ai dit un peu ce que j'avais vécu, ça les a touchés au sens qu'ils se sont dit « Ah ben oui, moi aussi ». Enfin voilà, ça a touché voilà. D'autres personnes.
Merci pour ce témoignage fort. Au fond, la violence, elle n'est pas que dans les armes. On la rencontre au fond de soi.
Oui, hélas.
Et On va continuer la semaine prochaine à explorer cette question de la violence qui a mille facettes. Merci, José.
Merci,
à la semaine
Yves.
Prochaine.
Oui, entendu.
Narges Nohamadi, femme iranienne, prix Nobel de la paix 2023, est toujours emprisonnée à Téhéran. Et elle a entamé une grève de la faim le jour de la remise du prix Nobel à Oslo. Ce sont ses deux enfants, Ali et Kiana, ses jumeaux de 17 ans, qui l'ont représentée. En Iran, elle est un des principaux visages du soulèvement « Femme, vie, liberté ». Depuis 1901, chaque année, un prix Nobel de la paix est attribué pour mettre en avant la lutte pour la paix, les droits de l'homme, l'aide humanitaire ou la liberté. Le premier, c'était Henri Dunant, pour son rôle dans la fondation de la Croix-Rouge. Va-t-on oser décerner en 2024 un prix Nobel de la paix? Et à qui? Alors que l'on n'arrive pas à faire voter et respecter un cessez-le-feu à Gaza et que dans les tranchées d'Ukraine, des soldats s'entretuent? Peut-être que la naissance d'un enfant, dans une étable, une étoile et quelques bergers de Palestine vont pouvoir nous aider. Joyeux Noël.